France Culture.
Il était une fois la planète et le vivant, les histoires, les récits, les contes et légendes peuplent l'univers des plus jeunes, dès l'enfance, avec l'ambition et la vertu de les ouvrir et de les sensibiliser à un autre monde, celui dont ils se sont peut-être éloignés au fil du temps. Et quand des spécialistes, des chercheurs d'univers différents, primatologues, architectes paysagistes ou encore botanistes, décident d'investir l'univers jeunesse et de raconter le monde du vivant aux enfants, la démarche mérite que l'on s'y arrête. Pour en comprendre les attentes, la portée, les ambitions, pour mesurer aussi les outils pédagogiques et les formes d'écriture mobilisées, et puis interroger ce besoin de raconter la terre, l'océan, les animaux, les végétaux, les enjeux climatiques et environnementaux autrement. Avec nous, trois invités. Nicolas Gilsoul, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes architecte paysagiste, docteur en sciences, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais, auteur notamment de Peur bête, édité chez Fayard, un livre pour adultes, celui-ci, et puis il y en a eu d'autres. Et le dernier né s'appelle Le renard du Père Lachaise, un conte écologique, édité chez Robert Laffont, jeunesse, nous allons en parler. Laurent Azuelaus, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes botaniste du Muséum National d'Histoire Naturelle. Pendant 20 ans, vous avez occupé cette place. Vous êtes professeur de botanique à l'Institut supérieur de l'environnement de Versailles et conteur, passeur de nature. À découvrir votre livre Arbre-Histoire, une promenade contée au cœur de la forêt, paru aux éditions Didier. Et L'Or Bleu, un conte musical auto-édité. Et avec nous, Emmanuel Grunemann. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, je le précise, en duplex des studios de France Bleu Auxerre et vous êtes primatologue, docteur en éthologie et conservation du Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste des grands singes et journaliste, auteur de nombreux livres jeunesse pour Bayard, on pense forcément à la collection SOS Animaux, mais vous avez aussi pour auteur les éditions du Ricochet, les éditions La Cabane Bleue et Fleurus, vraiment des éditeurs dont on aura l'occasion de parler puisqu'ils sont très investis sur ces questions-là. Là à vos côtés. Et on n'oublie pas non plus le livre que vous avez écrit intitulé « S'éveiller à la nature avec un enfant » paru chez Actes Sud. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture en partenariat avec le journal Le Monde. Émission préparée par Corinne Amar avec la collaboration de Lily Cornaer, Vanessa Chang et celle des équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique Noé Chaban et Florent Massiest de France Bleu Auxerre.
Ça fait peur pour le futur parce qu'on ne sait pas par exemple si on peut avoir des enfants, on ne sait pas s'ils peuvent avoir un futur.
J'aimerais bien vivre en 2040 quoi, pas de que la Terre arrête de tourner en 2030 à cause de trop de pollution, trop de déchets partout.
L'éco-anxiété, l'angoisse face au réchauffement climatique, un sentiment partagé par de nombreux jeunes rencontrés sur le campus de Bordeaux.
Je pense tout de suite à l'environnement de demain, à ce qui va se passer aux causes du réchauffement climatique, à ce qu'on va mettre en place ou pas, aux évolutions potentielles dans le bon sens, ou justement est-ce que ça va s'empirer.
Il y a des jours où je me dis qu'on a encore peut-être de l'espoir, mais il y a des jours où quand on voit le rapport du GIEC ou le projet Willow aux États-Unis, tous les dégâts qu'il y a en ce moment, c'est un peu dur de s'imaginer que dans 30 ans, 50 ans, la planète elle sera comme elle est maintenant.
Moi, je donne 6 euros, bon, c'est pas grand-chose, mais à Greenpeace tous les mois. En fait, j'aimerais bien faire plus, mais est-ce que ça va changer quelque chose? J'aimerais bien savoir ce qui va changer, parce que plus on avance, plus on a l'impression que ça sert à rien. C'est horrible, en fait.
Chacun dans vos domaines d'expertise, vous entendez probablement ces jeunes gens qui expriment un état d'anxiété. Alors il n'y a pas que les jeunes, d'autres aussi. Vous devez le percevoir, vous qui portez le regard sur l'évolution du monde, l'évolution de la planète, le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, que vous renseignez chacun dans vos univers. Nicolas Gilsoul, peut-être auprès de vos étudiants à l'école d'architecture, on vous en parle ?
Oui, bien sûr, c'est un vrai sujet et on leur met sur les épaules quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'ancienne génération a tendance à dire c'est votre problème les gars, allez-y, maintenant vous avez l'énergie, vous avez le courage, vous allez sauver la planète. C'est encore plus anxiogène.
Puis alors attention, quand on parle des jeunes, il n'y a pas qu'une jeunesse. Il y a des jeunesses selon les lieux de vie, selon les catégories sociales. Il faut toujours avoir en tête que la relation au vivant doit être offerte à tous, quels que soient les quartiers de vie. Et bien évidemment, on a ça en tête. Laurent Azuelo, sur ces jeunes gens, justement. Alors, sachant que vous intervenez sur des plus petits, en général, dans les cours d'école ou.
Alors, effectivement, moi j'interviens chez les maternelles, mais aussi chez les primaires, les collégiens, et aussi pour le tout public, puisque j'accueille les familles pour des balades botaniques comptées.
Ah oui, c'est vrai.
Mais quand je vais dans les écoles, notamment dans les collèges, je sens aussi de l'éco-anxiété. Pour pallier à ça, je suis plutôt dans l'éducation positive et j'essaie d'imaginer avec eux des choses pour mieux connaître déjà l'existant et construire ensemble l'avenir.
Eh oui. Emmanuel Grudman, de votre côté ?
Oui, je vais faire le même constat et avec des petits aussi. Moi, j'interviens souvent avec des enfants à l'école, plutôt dans le primaire, parfois aussi en maternelle. Et après, éventuellement aussi en collège. Mais voilà, cette éco-anxiété, elle se traduit vraiment de différentes manières, mais dans toutes les tranches d'âge. Et effectivement, moi aussi, j'essaye de trouver une autre façon d'aborder ces thématiques, de montrer plutôt l'émerveillement pour les sensibiliser. Ils ont déjà un poids tellement lourd à porter sur les épaules que voilà.
Alors, qu'est-ce qui vous a incité, tous les trois, mais Emmanuel Grudman, commençons par vous, à basculer dans le monde des récits pour la jeunesse? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou c'est venu presque tout naturellement dans votre progression?
Je pourrais dire qu'il y a quand même eu un événement déclencheur quand je travaillais sur les orangs-outans. À chaque retour de mission, donc je parlais de ces problématiques de déforestation, d'huile de palme, je me sentais assez impuissante. Et c'était à une époque où on parlait assez peu encore de ces problématiques. Et j'ai eu le sentiment de, finalement, d'être pas forcément utile dans le monde de la recherche, mais que mon rôle était plus dans la transmission, de parler de ces forêts, de parler de ce qui s'y passait, mais aussi justement de la beauté de ces forêts, parce que on ne protège que ce que l'on connaît et que ce que l'on aime. Donc voilà, l'élément déclencheur, il a été plutôt la vision de ce désastre en marche, de ce rouleau compresseur en marche, qui m'a donné envie de faire ma petite part de sensibilisation auprès notamment du jeune public.
Le premier livre, c'était quand ?
En 2001.
Ah oui, donc vous avez déjà un long parcours d'auteur jeunesse, ce qui n'est pas forcément le cas tout le monde autour de la table. Et d'où ma question vers vous, Nicolas Gilsoul, puisque on est habitué aux livres que vous pouvez écrire pour ce public d'adultes. Et alors, le dernier, Le renard du Père Lachaise, est vraiment ce conte écologique que vous nous offrez. Et donc, on se pose la question forcément, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de tourner la plume vers ce public-là ?
Je pense que il y a plusieurs choses, mais je pense déjà c'est parce que j'ai des enfants, j'ai deux garçons et que j'ai toujours adoré raconter des histoires. J'ai toujours adoré leur raconter des histoires, leur lire des histoires. Nounours et le ver de terre, ça c'est un livre, je vous le conseille, c'est génial. On apprend plein de trucs et je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de parler de quelque chose qui était cette métamorphose, c'est-à-dire que quand Saint-Exupéry écrit Le Petit Prince, on a Le Petit Prince et le renard. Les temps changeaient. Aujourd'hui, le renard, c'est le petit prince. Et donc, je pense que ça change complètement le paradigme et la manière de parler de notre rapport au vivant, de notre rapport à la nature. Et donc, voilà, c'est pour ça que le renard, il s'est incarné au Père Lachaise sous cette forme-là.
Laurent Azuelos, de votre côté, l'élément déclencheur ?
J'avais envie de donner aux gens et aux enfants, particulièrement, l'envie d'aller à la rencontre des arbres. Et de les aimer comme moi, j'ai appris à les aimer.
Parce que vous êtes un enfant du bitume et du goudron, c'est ce que vous dites, vous. Hein, attention, c'est pas mon jugement
ouais,
personnel.
C'est exactement ça. Mes parents ont déménagé de Créteil, une ville très urbanisée, quand j'avais 7 ans. Et on a emménagé à Marolles-en-Brie, dans un petit village au bord de la forêt de Notre-Dame. Où là, j'ai vécu des expériences immersives dans la forêt. Et ce sont ces expériences adossées contre les arbres, dans le silence, à écouter le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, les chevreuils qui viennent abrutir, les bourgeons, des noisetiers, tout ça, ça m'a émerveillée. Et je me suis dit, ma place, elle est là. Et je veux travailler au contact de la nature. C'était le rêve que j'ai fait à l'âge de 7 ans.
Et d'où le rêve de devenir botaniste, hein, ce que vous avez fait. Et puis aujourd'hui, d'être ce passeur de nature, ce passeur d'histoire. Forcément, ça pose aussi la question de savoir si, en dehors de cette immersion hein, qui a été la vôtre, est-ce qu'il y a eu ou des mentors pour les uns et les autres, des mentors soit rencontrés, hein, chair en os, ou des modèles. Laurence Vulos.
J'ai fait une belle rencontre à l'âge de, on va dire, 22 ans. J'ai rencontré Ludovic Soliman, conteur, auteur, metteur en rêve, comme il dit. Un homme d'une grande humanité qui m'a transmis l'art du conte. Et comme dit Gougo, le conte, c'est l'art de la parole, l'art du lien entre les gens. Il m'a vraiment transmis cet art-là. Et de cette façon-là. Et je le remercie encore aujourd'hui.
Nicolas Gilsoul, de votre côté.
Oh, j'ai lu Clément, c'est une évidence.
Le paysagiste
Clément,
Eric
Orsenna, parce qu'il m'a appris à compter. Mmh. Et probablement énormément de rencontres avec les animaux. Parce que c'est eux qui m'ont appris le plus, en fait.
Mmh. Par exemple ?
La grenouille poilue.
Que vous avez rencontré.
Mais oui, c'est formidable, la grenouille poilue, c'est une grenouille qui habite en Afrique, et puis on se dit, mince, c'est quoi une grenouille qui a des poils, c'est quoi cette histoire? Et à partir du moment où on commence à comprendre que c'est pas des poils, mais c'est des extensions de sa peau, et que la grenouille, elle respire par la peau, et qu'en réalité, le mâle, le papa, il va s'occuper des œufs beaucoup plus longtemps, et c'est à lui que poussent ses poils, parce que c'est lui qui va devoir passer plus de temps immergé, et donc il a besoin de plus de surface de peau, donc il a besoin de poils. Enfin, ça c'est génial, voilà, ça c'est des grands conteurs, ça c'est des grandes histoires, c'est eux qui m'ont tout appris.
Emmanuel Grunemann, de votre côté, des fascinations qui vous viennent d'où hein? Depuis toute petite, je crois, les oiseaux vous ont séduite et vous ont interpellée et vous vouliez être ornithologue à la base?
Oui, alors pareil, moi j'ai grandi dans le bitume, j'ai grandi à Montreuil, en région parisienne, mais les oiseaux étaient là, dans les arbres autour de là où nous vivions. Et j'ai grandi avec La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers, qui me faisait vraiment rêver. Donc ça a été probablement une des belles rencontres avec ce monde animal, d'abord par les livres et en parallèle dans la nature, parce qu'on allait souvent en forêt. Et donc observer les oiseaux, les écureuils, les grenouilles, c'était voilà des rencontres très importantes. Et puis par la suite, Monsieur Nicolas Guillaumet au Muséum d'Histoire Naturelle, qui était ornithologue, qui m'a ouvert gentiment, alors que j'étais encore lycéenne, les portes de son bureau et de ses recherches, et qui m'a poussée, encouragée à essayer de faire en sorte que cette passion devienne aussi ma vie.
Ce mentor qui était venu après, on peut le préciser, Emmanuel Grunemann aussi, après un grand-père imprimeur qui vous a donné l'amour des livres et la passion des mots, de la littérature, d'où ce que vous réalisez depuis 20 ans pour les jeunes d'aujourd'hui. Vous parliez de La Hulotte, eh bien je vous propose d'écouter la voix de son fondateur Pierre Déhomme. C'était dans La Marche des Sciences du 10 avril 2014.
J'ai découvert une sorte de besoin de nature quand j'ai fait mes études dans une ville qui n'est pourtant pas bien grande, c'est Charleville-Mézières. Là, j'ai vraiment découvert que la nature me manquait. Tant que j'étais immergé dedans, je ne me rendais pas compte. Et c'est quand j'en ai été privé que j'ai ressenti ce besoin extraordinaire de forêt, de silence, de solitude en même temps et de la nature sauvage. Quand je suis devenu instituteur, j'ai choisi le plus petit village qui s'appelle La Moncelle, dans les Ardennes.
Oui.
Et j'ai commencé à baguer les oiseaux. Ça a été mon entrée dans le monde de l'écologie, si on peut dire. Enfin,
oui.
En tout cas, le mot n'existait pas à l'époque, de la protection de la nature.
La protection de la nature, la reconnexion au vivant, on sent que c'est ce qui vous guide aussi aujourd'hui, tous, indispensable à la formation de ces jeunes citoyens, des enfants qui sont surtout plongés dans un monde numérique. Cela vous questionne hein, quand vous prenez la plume ou quand vous êtes conteur vous-même, Laurence Vulos.
Il y a vraiment un besoin de se relier au vivant qui nous entoure, parce que les arbres que l'on côtoie tous les jours, les plantes sur lesquelles on marche, on ne connaît plus leur nom, et pourtant... Il y a tout un univers qui s'ouvre quand on connaît le nom de chacune des plantes.
Donc important de donner à comprendre, d'expliquer, informer, parce qu'on ne défend que ce que l'on connaît, c'est ça?
Oui, et ce que l'on aime aussi.
Et ce que l'on aime.
Donner à aimer, pour moi c'est aussi très très important. Et ce que j'ai envie de souligner, c'est que à travers finalement ce mot reconnexion que l'on emprunte à l'informatique, finalement on se relie à soi-même avec les arbres. C'est ça que j'aime bien aussi dire. dans l'écologie, la science de la maison, c'est la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants. Donc c'est quoi ce lien entre les êtres vivants? Et le conte, c'est ça aussi, c'est créer le lien entre celui qui parle et celui qui écoute. Et donc c'est pour ça que je trouve le lien très intéressant entre le conte et l'écologie, comment on prend soin de la maison dans laquelle on habite et comment aussi on prend soin de notre maison à nous. L'écologie de la relation, ça passe aussi par sa propre écologie à soi. Et donc, pour moi, quand on va au contact d'un arbre ou d'une forêt, on se relie à soi-même, on apprend à mieux se connaître et à s'enraciner. Le proverbe dit, si tu veux savoir où tu vas, regarde d'où tu viens.
Donc, rendre familier cette nature, ses richesses, c'est le pouvoir de l'imaginaire, de l'interactivité avec les milieux au dehors. C'est avoir droit à l'émerveillement devant les richesses de cette nature, présente à nos portes, comme au cœur du cimetière du Père Lachaise. Écoutez ce reportage diffusé sur France 2, le 28 mai 2020.
En traversant une allée, j'ai entendu du bruit. En tournant la tête, j'ai vu un petit renardeau. Il est reparti très vite se cacher. Et je l'ai revu avec ses frères et sœurs le soir, après 20h, où là je suis allé les voir pour essayer de prendre les premières images. Et les renardeaux sont encore petits, pas très attentifs, donc on peut les filmer alors que les adultes, il n'y a quasiment aucune chance.
Le couple de parents serait parti du bois de Vincennes, situé à 5 km. Comment ont-ils fait? Impossible de reconstituer leur parcours exact. Mais ils ont forcément franchi le périphérique. Sur leur route, ils vont croiser le cimetière. Ils s'y réfugient et au premier jour du confinement, la mère donne naissance à 3 renardeaux. Le Père Lachaise est fermé. Depuis 2 mois, personne ne fréquente les allées. Dans ce parc de 45 hectares, les renards peuvent chasser tranquillement souris, hérissons, insectes et oiseaux dont ils se nourrissent.
Au Père Lachaise, ils ont tout ce qu'il faut pour se nourrir, pour se cacher la journée, pour grandir. Ils sont très discrets, ils sont très méfiants, ils ont peur de l'homme. C'est ça qui leur permet de survivre d'ailleurs. Donc il faut les laisser, il ne faut surtout pas les nourrir. Ce sont des animaux sauvages qu'il faut laisser s'épanouir. J'espère qu'ils vont rester, et pourquoi pas refaire des petits l'année prochaine. Ce sera toujours un plaisir de les observer de loin.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Nicolas Gilsoul, les choix de sujets, c'est pas si évident non plus. Est-ce que ça a été, dans votre cas, un casse-tête ou une évidence? Est-ce que l'histoire que vous racontez avec ce petit garçon qui se laisse enfermer en fait dans le cimetière du Père Lachaise, puis après, ben voilà, il va se passer plein de choses dans la nuit et complètement cette union entre lui et ce monde du vivant et un renard notamment. Enfin bon, en tout cas,
ça a été une évidence.
C'est vrai.
Oui, ça a été une évidence. Alors c'est marrant parce que donc on entend Benoît Gallot là qui
le conservateur du cimetière.
Non, c'est son grand jardin, en fait. Et à 18h, les portes se ferment, la cloche sonne, les portes se ferment, les humains sortent, et à ce moment-là, tous les animaux sortent le bout de leur truffe ou le bout de leur bec. Et c'est vrai que ça m'avait fasciné, ce reportage. Ces photos sont fascinantes aussi à Benoît, et on est devenus amis, et il m'a permis de passer plusieurs longues soirées crépusculaires dans le cimetière. On a regardé les renards. Ils ont grandi, ils ont fait des petits, voilà sa promesse. La dernière fois, on en a vu 9 en une soirée quand même, donc ils sont quand même nombreux, il y a 3 familles. Et alors c'est marrant parce que dans le reportage, on entend les corneilles. Les corneilles étaient à ce moment-là les alliés de Benoît. C'est-à-dire que quand elles se mettaient à faire leur bruit, c'est que le renard passait. Et donc ils savaient dans quel coin du cimetière le renard était. Aujourd'hui, elles se sont habituées aux renards, donc elles ne font plus ce bruit-là. Et donc, il a trouvé d'autres solutions pour leur parler. Et les renards eux-mêmes se sont habitués à la présence des hommes. Donc, de temps en temps, si vous y allez très tôt le matin, quand ça ouvre à 8h, il est parfois possible d'en apercevoir. Voilà. Et donc, non, ce choix a été une évidence parce que cette expérience a été très forte. La première nuit, il y avait de l'orage, il y avait de la pluie, il y avait le cimetière du Père Lachaise avec ses anges de pierre géants. Et puis, tout d'un coup, on traque une silhouette sauvage entre les tombes. Je voulais raconter ça. C'était trop beau.
Et donc, ce monde sauvage, que vous avez aussi en commun avec Emmanuel Grunemann. Je me tourne vers vous, justement. Vous, depuis toutes ces années, vous faites en sorte de nous renseigner, nous immerger, c'est-à-dire à travers ces contes d'enfants, mais on sait bien que ça touche aussi le public des parents, donc le public familial. Dites-nous ce qui vous guide aussi dans vos choix de sujets, de ce que vous essayez de donner à voir, à comprendre, les informations que vous tentez de faire passer aussi sur les atteintes, les destructions dues à l'humanité.
Alors, au départ, c'est vrai que j'ai parler de mon expérience la plus proche, qui était celle des grands singes, donc des animaux plutôt lointains, des milieux lointains, des espèces emblématiques qui font rêver. Mais j'ai vite aussi eu à cœur de parler de cette nature qui nous entoure. C'est ce que j'aime beaucoup pointer du doigt quand je vais dans les écoles en particulier, c'est de dire aux enfants, mais il n'y a pas besoin d'aller loin, vous ouvrez la porte, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez, et il y a toujours quelque chose, et on peut s'émerveiller tous les jours, tous les instants, de ce qui se passe autour de nous. Et je crois que le message derrière tout ça, c'est l'émerveillement. Parce que l'émerveillement, c'est quelque chose qui est très important, qui aime la lenteur, la rêverie, et ça fait une petite pause dans ce monde un peu fou qui va trop vite avec ce monde connecté où on est bombardé de trop de choses, et tout d'un coup on fait une pause, on regarde le ciel, un oiseau passe, on regarde le sol, il y a une petite coccinelle dans l'herbe. Et quant au choix des sujets, c'est souvent des sujets qui me tiennent à cœur. Moi, j'ai travaillé par exemple, bon, outre les grands singes, mais par exemple sur les grenouilles, parce que ce sont des animaux qui parfois sont pas forcément bien compris ou mal aimés. Et bon, j'habite maintenant à la campagne et on les voit souvent écrasés lors de leur migration. J'aime vraiment aussi parler de ces espèces proches qu'on regarde moins parce qu'on est plutôt vite fasciné pour les éléphants, les girafes, les tigres, etc. Mais voilà, il y a aussi toute cette faune à côté de chez nous. Et essayer de l'aborder aussi, pas uniquement sur le registre frontal, en montrant les mauvaises nouvelles, mais aussi jouer sur le registre plus, peut-être plus affectif, à travers justement des petites histoires, des romans, des albums, pour glisser cette conscientisation écologique de manière un petit peu plus subtile pour les plus jeunes, pour éviter justement cette éco-anxiété.
Vous tournez vers quel type de public, le premier âge et jusqu'à quel âge? Parce qu'il y a aussi cette collection SOS Animaux. On sent que là, ça fait penser au Club des Cinq ou à d'autres grandes aventures où on retrouve les mêmes personnages de numéro en numéro.
Oui, c'est ça. Alors, pour le coup, la collection SOS Animaux, c'est vraiment pour des jeunes lecteurs, donc ou après, encore plus jeunes si ce sont les parents qui leur lisent. On a les deux mêmes petits héros récurrents qui vont vivre différentes aventures auprès d'animaux proches et lointains. Alors, c'est beaucoup inspiré de choses que j'ai moi-même vécues. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est de voir par exemple qu'il y a un tome sur les hérissons, et suite à la lecture de ce tome, il y a beaucoup d'enfants qui ont commencé à fabriquer, soit tout seuls, soit avec leur famille, soit avec leur classe, des panneaux pour apposer dans leur village. Et je vois ma fille, elle était de ceux-là où elle a fait une lettre au maire pour lui demander si elle pouvait installer un panneau dans le village pour demander aux gens de ralentir et de faire attention aux hérissons. Et voilà, ça passe par des toutes petites choses, parce qu'il y a un désir des enfants d'agir à tous les âges. Alors évidemment, chez les plus grands, comme on a entendu tout à l'heure dans le reportage, mais aussi chez les plus petits, et ils se sentent souvent démunis, et c'est ça qui génère aussi de l'éco-anxiété. Leur montrer que des petites choses, bah voilà, c'est un petit caillou qui, ajouté un petit caillou à un autre petit caillou, peut faire bouger les lignes.
Vous parliez plus de la faune, hein, à travers vos réalisations, Emmanuel Grunemann. Alors il y a aussi la flore à côté de chez nous, qui accompagne la faune à côté de chez nous, en tout cas qui vit dans cette symbiose totale, et des formes différentes de récits, hein, Laurent Azuelos. En tant que musiconteur, vous développez des contes musicaux, des balades contées, ludiques, qui suscitent l'imaginaire, qui offrent le plaisir du partage et permet de s'ouvrir aussi à cette biodiversité. Je vous propose de plonger dans l'une de vos réalisations.
Oreille, j'ai la tête dans le trou de l'arbre. Je vois des êtres recouverts de poils sombres avec de grandes oreilles. Je sens leur souffle. Je crois qu'ils sommeillent.
Des sorcières, feuilles de chou?
Non, mieux oreille. Le monde à l'envers. Une colonie de chauves-souris. Suspendues tête en bas, enveloppées dans leurs ailes. Ça y est, leurs yeux s'allument. Leurs museaux s'agitent. Écoutez-les.
Les copines, la nuit s'est levée, c'est l'heure de l'apéro. Hip hip hip,
hurra !
Laurent Azuelos, alors après, il y a aussi des chants, la musique, etc. C'est vraiment un mélange à la fois de parties contées et puis de scènes musicales. Racontez-nous, voilà, pourquoi ces choix-là, de forme, j'entends. C'était évident pour vous ? Il n'y avait pas de questions spécifiques ?
C'est ce qui me ressemble. J'aime bien ce côté farceur, ce côté rieur, et sur le terrain, ce côté interactif aussi. Et donc, j'aime mêler les différentes disciplines, à la fois la musique, la poésie, la botanique. C'est vraiment ma marque de fabrique, quoi. Moi, c'est ce qui m'anime, et c'est comme ça que j'ai envie de partager. Voilà, souvent, à la fin, par exemple, des balades contées, les gens me disent « on a vécu un moment hors du temps ». Je pense que c'est l'alliance de toutes les disciplines qui le permettent.
Donc c'est par ces histoires-là qu'on peut retrouver, hein, je le précise, en arbre-histoire, histoire naturelle et botanique, poétique, avec une écoute en ligne, hein, QR code, etc., tous les moyens modernes d'aujourd'hui, bien sûr. Par ces histoires, c'est le moyen de mettre en lumière le génie des espèces aussi, hein, et la relation ancestrale entre l'homme et la nature.
Oui, tout à fait. Bah, par exemple, sur l'histoire du saule qu'on écoutait à l'instant, c'était pour montrer la cohabitation qui existe entre les chauves-souris et les saules. Les saules abritent les chauves-souris, ils offrent le gîte aux chauves-souris, et en contrepartie, les chauves-souris, ils vont mettre leurs excréments riches en phosphore au pied de l'arbre, et ça va nourrir l'arbre en nutriments. Ça, c'est pour eh bien cette cohabitation extraordinaire et naturelle qui existe entre le saule et les chauves-souris. Et avec le saule, je me permets aussi, avec les élèves et le grand public, de souligner que autrefois, les anciens observaient que les chevaux qui étaient malades allaient en fait croquer l'écorce du saule pour se guérir. Et les anciens ont vu ça et ils ont testé eux-mêmes d'utiliser l'écorce du saule pour se guérir. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé que l'écorce du saule pouvait soulager les fièvres et les douleurs. Et de l'écorce du saule, on a extrait les substances que l'on trouve dans l'aspirine.
D'accord. Nicolas Gilsoul, ça vous parle, ça, en tant qu'architecte paysagiste. Alors, je n'ai pas précisé pour nos auditeurs que dans vos fonctions, hein, vous enseignez aux jeunes architectes d'aujourd'hui et de demain. Et donc, on voit bien qu'il y a cette architecture paysagère qui est pensée avec les problématiques d'aujourd'hui. Ça, c'est le rôle que vous remplissez auprès de ces jeunes gens, hein, qui ont aussi l'envie de transformer nos lieux de vie. Mais vous avez aussi fait le choix, il n'y a pas si longtemps, de ne plus rien construire de neuf pour ne pas avoir cette empreinte sur les territoires et notamment ces écosystèmes. Donc là, quand on vous parle de ces plantes, du saule, de ces écosystèmes, on imagine que vous êtes tout oui, et même plus que ça.
Oui, oui, et puis je pense qu'il faut rester cohérent. C'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Alors c'était bizarre, enfin, quand on enseigne l'architecture, de dire ça aux étudiants. Mais en même temps, on peut réparer la planète autrement. Et je pense qu'il faut être cohérent dans les choix qu'on fait. Et ça commence avec un enseignement au tout petits, aux jeunes enfants, pour leur faire comprendre que les modèles qu'on a mis en place jusqu'ici nous ont amenés dans cette situation d'impasse et qu'il est inutile d'essayer de mettre un patch sur une jambe en bois. Il y a un moment donné, il faut revoir la légende par la connaissance, par tout un tas de biais. Et c'est vrai que dans l'album du renard, il y a différents niveaux de lecture aussi. Il y a celui du mot, du verbe, du conte, de la fable. Il y a celui du dessin, parce que j'ai insisté pour... Enfin voilà, je sais pas que j'ai insisté, ils étaient tout à fait d'accord. J'ai des éditeurs géniaux, mais pour dessiner les choses. Parce que dans le dessin raconte ce que le mot n'arrive pas à raconter, et notamment cette souplesse de certains animaux, notamment cette tendresse de certains animaux, notamment cette furtivité ou des choses comme ça, voilà. Et puis à la fin, il y a un autre niveau de lecture qui est un cherche-trouve, c'est-à-dire par le jeu, une espèce de cherche-trouve qui se passe où on a une quarantaine d'espèces animales qu'on retrouve dans l'album, mais qu'on retrouve aussi dans les parcs, les forêts, les couronnes urbaines, etc. En France, bon, en tout cas à Paris certainement. Et donc on apprend toute une série de choses sur ces animaux pour aller plus loin, pour ne pas avoir un effet Disney, mais au contraire, comprendre réellement comment ils fonctionnent, quoi. Voilà.
Et comme vous le disiez, c'est vrai que tout ce travail des illustrateurs est vraiment, vraiment précieux. Il nous renseigne, parce que quand j'ai dégusté votre album, hein, c'est vrai, Nicolas Gilsoul, je me suis prise au jeu et j'ai eu le sentiment de revivre ce que je vivais dans mon enfance, c'est-à-dire non seulement il y a la lecture, hein, l'histoire qui se raconte avec les phrases, les mots, mais en même temps, je me suis prise au jeu d'aller chercher dans la forêt, derrière les arbres, caché, ce vivant qui avait dû être niché par l'illustrateur. Et c'est vrai qu'il est niché par l'illustrateur et que c'est vraiment une pure merveille. Donc il faut effectivement saluer aussi ce travail, cette belle collaboration. Emmanuel Grunemann, de la même façon, vous travaillez aussi avec des illustrateurs ou illustratrices. Et vous avez cette même approche, hein, par la sensibilité, la rêverie, hein, qui peuvent nourrir aussi une mémoire affective, un attachement mêlé art et science pour pouvoir reconnecter et engager peut-être ces jeunes citoyens vers l'envie de préserver.
Oui, je pense que ce soit l'humour ou une composition graphique originale ou justement l'illustration qui peut être un peu décalée. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui va réussir à faire passer aussi des messages et éviter d'être trop didactique et de jouer sur d'autres registres, sur le registre sensible, affectif, et comme vous disiez, de retourner aussi en enfance, parce que la nature, par définition, c'est aussi le lieu de notre enfance, c'est notre terrain de jeu de notre enfance, quand on a eu la chance de pouvoir l'expérimenter. Et notre vie adulte, elle va se nourrir de toutes ces rêveries, de toutes ces expériences dans cette nature, et aussi dans les livres qu'on a pu lire ou avoir entendu enfant, lu par nos aînés. Et voilà, je pense que c'est extrêmement important aussi d'offrir une autre façon de voir la nature que simplement par un côté très sec, très didactique et très factuel.
Et puis il y a les chansons. On va écouter votre choix musical, Emmanuel Grunemann. Vous nous avez proposé C'est la chauve-souris de Thomas Fersen.
Oui, parce que je l'aime beaucoup, cette chanson.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris émet un parapluie, émet un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit de balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris émet un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui. Pendant que le parapluie menait au père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau, avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu.
C'était C'est la chauve-souris de Thomas Fersen et c'est le choix musical d'Emmanuel Grunemann dans De cause à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous poursuivons notre sujet du jour, des histoires de livres, de contes écologiques au cœur de nos préoccupations. Il était une fois la planète et le vivant, entre art et science, comment raconter la Terre, l'océan, les animaux, les végétaux, les enjeux climatiques et environnementaux autrement. Avec nous, Nicolas Gilsoul, architecte paysagiste, docteur en sciences, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais et auteur d'un livre jeunesse, le dernier né en tout cas, s'appelle Le renard du Père Lachaise, un conte écologique édité chez Robert Laffont Jeunesse. Et alors, petite correction, je parlais tout à l'heure des illustrations et vous me disiez pendant la chanson que c'est vous, Nicolas Gilsoul, qui avez fait tous les dessins.
Oui, bien sûr, c'est un pied fou. Alors c'est Virginie Blanchard qui a mis tout ça en couleur et qui a donné la magie au dessin. Mais non, j'ai pris énormément de plaisir à dessiner les animaux, dessiner les décors, à passer, je sais pas, 200 fois dans le Père Lachaise pour dessiner les tombes, les anges, les machins, voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps à expliquer des choses à travers le trait aussi.
Parce qu'un architecte n'est pas forcément un dessinateur, un illustrateur de livres jeunesse.
Ah, vous non, mais ce, un serait, don, quand ce même. Serait bien hein, que, que ce soit, ça fasse partie du cursus. Ça. Je pense que ça nous permettra de voir le monde autrement.
C'est vraiment sublime. Avec nous également Laurent Azuelos, botaniste au Muséum National d'Histoire Naturelle pendant 20 ans, professeur de botanique à l'Institut supérieur de l'environnement de Versailles et aujourd'hui également conteur, passeur de nature. On peut mentionner Arbre Histoire, une promenade comptée au cœur de la forêt est parue aux éditions Didier et un livre auto-édité qui s'appelle
L'or bleu.
L'or bleu, conte musical. Et avec nous, Emmanuel Grunemann, primatologue, docteur en éthologie et conservation du Muséum National d'Histoire Naturelle, très représenté aujourd'hui, spécialiste des grands singes, notamment les orang-outans de Bornéo et journaliste et auteur depuis une vingtaine d'années de nombreux livres jeunesse chez des éditeurs très impliqués. On peut mentionner la collection SOS Animaux chez Bayard, puis les éditions du Ricochet, La Cabane Bleue, Fleurus, sans oublier aussi Actes Sud. S'éveiller à la nature avec un enfant, un livre plus pour les parents. Écoutez, tout de suite, on va justement s'intéresser aux questions du sauvage, dénoncer les ravages et la prédation, c'est aussi votre rôle.
Les orang-outans, appelés aussi les hommes de la forêt. Un primate qui vit comme ici, en Indonésie ou en Malaisie. Une espèce aujourd'hui menacée, que certains tentent de sauver. Pour aller à la rencontre des derniers orang-outans, il faut se rendre dans la jungle de Bornéo. Dans ce parc national coule une rivière où l'on peut, depuis ses bateaux touristiques, admirer avec un peu de chance les primates.
C'est un enchantement absolu de voir mon premier orang-outan. Sauvage, en pleine nature. On ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, si c'est un vieux ou un jeune.
Une scène de plus en plus rare. Les orang-outans sont menacés d'extinction. 60 à 80% de sa population ont disparu. Il en resterait aujourd'hui moins de 60 000. En cause, les feux de forêt, la déforestation massive, mais aussi le braconnage. Alors pour tenter d'en sauver le plus possible, des zones de réhabilitation ont été créées dans la jungle.
C'est extraordinaire, c'est de les voir dans leur milieu naturel, c'est assez fou. Et c'est vrai qu'ils nous ressemblent pas mal quand même.
Moi j'ai l'impression d'avoir 2 ans.
C'est-à-dire ?
Eh ben c'est de voir ça pour la première fois et je me sens toute chose.
La plupart des orang-outans que l'on voit ici sont des animaux anciennement captifs. Ça veut dire qu'ils ont longtemps vécu aux côtés des hommes, mais ils ont été secourus et amenés ici. Et on les habitue ainsi à redevenir sauvages dans la jungle.
Reportage diffusé sur France 2 le 10 juillet 2023. La déforestation, c'est ce qui vous a donné envie, Emmanuel Grunemann, on l'a compris, hein, et ces dévastations, justement, d'entrer dans ces récits pour les jeunes et exprimer aussi tout ce que vous avez pu constater sur le terrain. Ça fait penser aussi à votre livre SOS Animaux Menacés, paru chez Fleurus, où là, vous nous donnez à comprendre sur énormément d'espèces aussi ce qui est en jeu hein, par rapport à ces atteintes aux écosystèmes.
Oui, tout à fait. Alors dans ce livre-là, c'est assez... Pour le coup, là, on est plutôt très didactique avec une sorte de panorama des causes de l'érosion de la biodiversité, de la destruction des différents environnements et des enjeux liés aux différentes espèces, celles qui ont malheureusement déjà disparu, celles qui sont sur le fil de l'extinction et différentes bonnes nouvelles aussi. C'est ce qu'on a essayé de faire avec l'éditrice à chaque fois, de trouver aussi des initiatives positives qui sont souvent des toutes petites initiatives qui sont le fait d'une population qui vit aux côtés de cet espace, cette espèce, ce milieu, cette flore particulière. particulière pour montrer que, à côté de ce tableau assez sombre, il y avait quand même aussi beaucoup de choses qui se faisaient, beaucoup de belles choses, et que finalement, avec parfois peu de moyens, on peut arriver à faire bouger les lignes. Et c'est quelque chose aussi que je trouve vraiment important, c'est donner à voir des choses positives pour justement ne pas être uniquement dans ce côté très anxieux qui est déjà très très fort, surtout sur ces thématiques-là. Mais voilà, montrer aussi qu'il y a des belles choses qui se font. Souvent, ce qui revient, les enfants disent, ou les lecteurs disent, mais on sait pas trop quoi faire. Et en fait, si, on peut ne serait-ce que s'émerveiller déjà, observer, s'émerveiller, apprendre. C'est un premier pas vers la protection, puisque comme on le disait déjà tout à l'heure, finalement, on ne protège que ce que l'on connaît et que ce que l'on aime.
En même temps, dans ce livre, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdit. On sent qu'il faut dire sans interdit, mais en trouvant les mots pour le public visé. Il faut parler de tout, les massacres, les pollutions, les destructions, éco-anxiété, pourquoi pas, climato-scepticisme. Et on voit que vous avez des entrées qui portent sur la pollution du plastique, le pétrole, un danger pour les animaux, l'urbanisation dévorante, l'agriculture et la biodiversité, etc. Et puis on progresse, et au fil effectivement des chapitres, eh bien, vous partez sur les solutions, les patrouilles anti-braconnage, par exemple, les nouvelles technologies au secours des espèces, réintroduire des espèces pour les sauver, etc., etc. Il y a ce côté, bien sûr, porte de sortie, j'ai envie de dire, dont tout le monde a besoin. Mais c'est quand même dire aussi et ne pas exclure ce qui va mal.
Oui, les enfants sont souvent très demandeurs. Je vois quand je fais des interventions scolaires, moi j'aime plutôt aborder les choses d'une manière, enfin sur le ton de l'émerveillement. Je vais leur parler des espèces fascinantes. Bon, je pense par exemple au titre du dernier livre chez la Cabane Bleue qui s'appelle « Quand la grenouille ira dormir chez la mygale », où là il est question de duos parfois improbables, comme celui de cette petite grenouille qui vit dans le terrier d'une mygale et tous deux s'entraident. C'est une cohabitation qui paraît assez improbable et c'est vrai que quand on la raconte, on voit les yeux des enfants qui s'ouvrent comme des soucoupes. Et voilà, c'est la porte d'entrée dans cette fascination, dans cette magie de la nature, du monde animal comme végétal. Mais derrière, tout de suite, les enfants ont des questions sur mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont menacés? Il y a vraiment un désir aussi de leur part de savoir où on en est et aussi ce que eux peuvent faire. C'est une question récurrente, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle?
Ne pas cacher les sujets, hein, Nicolas Gilsoul, parce que ça peut aussi générer de l'inquiétude chez les enfants. Privilégier toujours le dialogue, le partage, ça c'est aussi renseigné par des pédopsychiatres, hein, comme Laëlia Benoît, par exemple, qui voit bien que pour éviter des situations d'angoisse et de colère plus tard, par manque de communication intergénérationnelle, eh bien, il faut pouvoir communiquer, dire et montrer qu'on est au courant aussi et qu'il n'y a pas un vide. C'est important pour ces jeunes gens, hein, tout dire.
Bien sûr, tout dire. La question qui s'était posée quand on a démarré cette aventure du Père Lachaise, pourquoi le situer dans un cimetière? Ça va parler de la mort, mince, parler de la mort aux enfants. Alors, c'est pas la mort de la grenouille ou de la mygale, c'est la mort de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa sœur, voilà. Et je pense que, voilà, c'est un sujet qui est très difficile à aborder avec les enfants. Dans la fable, on l'aborde par un biais, voilà, on peut le lire comme ça, on peut le lire comme une aventure, on peut le lire comme une aventure écologique aussi, mais on peut aussi parler de la mort à travers ce livre. Là, et il a suffi d'une loi, dans les bonnes nouvelles, il a suffi d'une loi, c'est la loi Labbé, qui interdisait les biocides dans la gestion des parcs et des jardins publics en France, il y a quelques années, qui fait que depuis, eh bien, il y a une reconquête d'insectes, de plantes, d'oiseaux, alors c'est pas tout complètement génial, mais depuis 14 ans à Paris, on voit des espèces qui reviennent, qui n'existaient plus, et notamment au Père Lachaise. C'était marrant parce que quand j'avais dessiné la planche, j'avais dessiné une chouette hulotte, et puis Benoît Gallo m'avait dit « tu sais, j'en ai pas des chouettes hulottes », il était un peu déçu. Et au mois de juin, les chouettes hulottes sont venues nicher au Père Lachaise et ont donné des petits, ce qui n'était plus arrivé depuis 30 ans à Paris. Donc une loi a suffi pour transformer, enfin calmer une dynamique. Et quand on parle l'urbanisation, machin galopante, et ça, oui, ok, mais il y a aussi des mouvements dans l'autre sens qui sont intéressants à noter. Ouais.
Et quand vous parlez de biocides, hein, c'est les pesticides, les insecticides, oui, ces intrants chimiques, hein, qu'on utilisait massivement pour traiter ce qu'on appelait assez largement les mauvaises herbes.
Oui,
aujourd'hui, on utilise d'autres termes parce que il s'agit aussi de repenser notre place sur Terre, de regarder l'autre, le vivant, pour ce qu'il est et le considérer aussi à sa place.
Oui. Mais c'est l'autre, c'est toute la question, c'est celle de l'altérité. Le végétal, l'animal, on est des animaux, mais on a mis une catégorie, voilà, et on a perdu ce contact au vivant, et on l'a remplacé par des croyances.
Parce qu'il faut pas oublier aussi que ce qui est en jeu dans la préservation et la défense des espèces et des environnements, c'est la survie de l'humanité.
Oui, bah c'est ça qui nous intéresse d'abord. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, très crûment, mais c'est vrai que c'est...
Le vivant en général nous intéresse.
On se pose cette question-là parce que on a peur de disparaître. Parce qu'en réalité, si vous regardez ce qui se passe au large de Fukushima, les algues sont en train de s'accumuler parce que plus personne ne vient les récupérer parce que c'est complètement radioactif. Mais dans ces algues qui s'accumulent, on vient de se rendre compte qu'il y a un nouvel écosystème qui est en train de se mettre en place et qu'il y a des espèces auxquelles on n'avait absolument pas pensé qui sont en train de... Donc c'est un autre paysage qui est en train d'arriver, de la même manière que quand Étretat, les falaises d'Étretat s'écroulent parce que l'érosion des côtes, en réalité c'est un autre paysage qui se met en place, c'est un autre écosystème avec d'autres espèces que nous on appelle invasives, nuisibles, machin, etc. Mais c'est simplement, c'est autre chose qui est en train d'arriver. Nous, notre temps est compté, c'est bien d'en parler avec les enfants aussi.
Laurent Azuelos, sur ces questions-là justement des récits, quelle réaction ressentez-vous auprès des plus jeunes hommes? Ils sont prêts à tout entendre. Après, il faut pas non plus les inquiéter. Il faut aussi les mots qui permettent de dire les choses et puis de rassurer quand même. Mais on imagine. Vous n'êtes pas forcément dans cette situation avec vos comptes.
Souvent, quand je vais voir les jeunes, ils me disent « Oui, cette plante-là, à quoi ça sert ?» Et moi, je leur réponds « Mais toi, à quoi tu sers ?» Et ça permet de remettre dans le contexte.
Ça doit les étonner quand même.
Ça fait vachement écho à ce que vous dites. Chaque être vivant à sa place dans l'écosystème. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour leur dire ça. Quand je vais dans un collège, ce que j'aime faire, c'est je regarde dans la commune la biodiversité végétale qui existe dans cette ville. Et je leur dis, voilà, dans votre ville, les scientifiques, ils ont dénombré à peu près 250 espèces végétales d'après l'observatoire régional auquel j'ai participé quand j'étais au muséum. Parmi ces 250 espèces, 25% des espèces sont menacées. Pourquoi ? Et là, je fais la liste avec eux. Urbanisation, les intrants, pollution liée à l'agriculture, assèchement des marais. Donc, on fait la liste et on dresse comme ça les menaces. Et moi, je leur dis, avec ça, c'est quoi justement notre levier d'action? Et en réfléchissant, on tombe assez rapidement sur la façon de consommer, le choix de notre consommation, de qu'est-ce qu'on va acheter, tout simplement. Eh bien, la chose la plus facile qui arrive, c'est consommer des produits issus de l'agriculture biologique qui respectent le vivant. C'est la chose la plus simple qu'on peut faire. Parce qu'en tant que scientifique, ce que j'ai observé pendant les 20 dernières années où j'ai prospecté le terrain sur la flore sauvage de Seine-et-Marne, eh bien, c'est que le changement des espèces était plus lié aux pratiques agricoles qu'au réchauffement climatique, pour l'instant.
Après, certains vous diront, tous les foyers ne peuvent pas forcément se nourrir uniquement, malheureusement, avec des produits plus sains, parce que c'est un surcoût, petit peut-être, mais petit, ça génère quand même un surcoût à la fin du mois plus conséquent. C'est ça aussi, la réalité du monde d'aujourd'hui.
Alors, il y a d'autres outils qui existent. Je peux me permettre?
Allez-y.
Alors, par exemple, avec l'Office français de la biodiversité, les élèves peuvent mettre en place des aires terrestres éducatives accompagnées par un scientifique. Ils décident eux-mêmes de choisir un espace vert dans la ville et dans cet espace vert, d'en augmenter la biodiversité. Alors, dans cet espace vert, ils peuvent aussi choisir de cultiver des produits issus de l'agriculture biologique. Ou alors, ils peuvent, comme je l'ai fait avec certains collégiens, créer des parcours de découverte des arbres, où ils vont parler des propriétés médicinales des arbres, des propriétés aussi gustatives de certains arbres, et pour mettre en valeur le patrimoine végétal.
Alors, on comprend que tous les trois, vous êtes aussi unis dans l'envie de donner du rêve, susciter l'imaginaire, l'émerveillement, on l'aura compris. Mais aussi, ce sont des rêves de monde meilleur, avec le respect des communs, comme l'eau.
Plic-ploc. Il pleut.
Les gouttes de pluie tombent des nuages, voguent sur l'eau, bondissent sur les rochers, éclaboussent la terre, roulent entre les fleurs et glissent jusqu'à la mare au nénuphar. Là, perché sur une branche, Martin pêcheur guette les poissons. Les roseaux dansent avec le vent. Le canard fouille la vase à la recherche de vers. Le héron cendré, lui, se promène d'un pas tranquille. La libellule si belle zigzague dans le ciel. La couleuvre se faufile entre les iris. Et la grenouille rainette, trônant sur son nénuphar, se prend pour la reine de la mare. Plic-ploc, la pluie picote. Et par magie s'élève dans la brume le chant de l'eau.
Je me tourne vers vous, Laurent Azuelos, en précisant aux auditeurs que vous êtes en train de danser dans le studio et qu'on sent le musicien en vous totalement. Voilà, c'est une belle façon de conscientiser, on peut dire, ou d'interpeller sur l'eau qui est un bien commun. On parle de l'or bleu, ce n'est pas pour rien. C'est cette ressource qui est rare déjà dans le monde, en certains lieux, qui va devenir probablement de plus en plus rare.
L'or bleu, c'est une façon de parler de cette ressource qui existe depuis 4 milliards d'années sur la planète Terre, qui ne fait que voyager, se transformer, et cette ressource qui est limitée. Et en fait, il y a différentes lectures dans ce conte, mais une deuxième lecture, c'est comment on fait avec cette ressource qui est limitée dans une croissance économique qui est illimitée. Elle pose cette question-là à un deuxième niveau de lecture. Et pour les enfants, ça parle d'une ogresse qui est incarnée par une grenouille qui boit toute l'eau de la terre. Qui porte cette valeur, justement, de partage.
Donc, L'Or Bleu, un conte musical auto-édité, appel à un éditeur. On lance cet appel aussi, puisque vous êtes en quête d'un éditeur pour ce conte musical. Nicolas Gilsoul, l'eau, forcément, ça vous parle en tant qu'architecte paysagiste?
Oui, puis ça me rappelle une histoire, parce qu'on est en train de parler des enfants, ça me rappelle quelque chose qui s'est passé pendant le confinement. On était tous à l'intérieur, à avoir un petit peu peur, et mon fils avait des rêves de plonger dans l'océan et de rencontrer les poissons et de rencontrer les animaux marins. Il n'avait jamais fait ça de sa vie. Et je pense que le confinement a particulièrement stimulé ça. Et donc, on lui avait trouvé un livre qui était un guide scientifique de la Chauniestie, un truc vraiment bien, avec des noms latins, etc., sur les poulpes. Et on lui avait acheté un masque avec un tuba et on lui avait dit, quand on sera déconfiné, on ira. Et j'ai ce souvenir de le voir assis sur le tapis dans le salon avec le masque sur le visage, plongé dans son ouvrage à retenir tous les mots latins comme si c'était des noms de Pokémon. Et ce jour-là, il a choisi que plus jamais il ne mangerait des animaux qui habitent dans la mer. Ça, c'est une autre façon de faire aussi. C'est-à-dire, c'est un choix, et c'est un choix qui est venu de l'émerveillement. Il les a vus, il en a rêvé en tout cas, à travers ces images. Et puis on a été, l'été dernier, on a été plongé pour essayer d'en trouver au large de Marseille.
Emmanuel Grunemann, beaucoup de sujets sur lesquels on a envie de s'éterniser. Et en même temps, la pendule tourne devant nos yeux. Vous pouvez peut-être nous confier l'une de vos plus belles rencontres, les plus inspirantes ou les plus marquantes ou insolites avec le vivant. Et puis on peut se questionner aussi sur à quel moment nous, adultes, on perd ses rêves d'enfant.
Déjà, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que j'ai vécu la même chose avec ma fille. Elle était très petite et c'était pas pendant le confinement, mais l'émerveillement pour les animaux lui a fait dire à 2 ans et demi, je ne mangerai plus jamais d'animaux, quels qu'ils soient. Et elle est devenue végétarienne depuis, et elle essaye de convaincre ses amis du bien fondé d'être végétarien, à la fois pour la planète, mais pour respecter aussi les animaux. Pour répondre à votre question, une des plus belles rencontres, je vais forcément parler des orangs-outans parce que c'est émaillé de moments incroyables et d'avoir l'impression d'être en face de personnes, non pas d'animaux, mais de personnes. Et ça a été une vraie leçon d'humilité. Et je pense que se confronter au vivant, que ce soit avec la faune ou la flore, c'est ça qui ressort, je pense, l'humilité. Et c'est peut-être ce que j'ai le plus envie d'essayer de transmettre, cette humilité. Nous, on n'est qu'une petite part à l'intérieur de ce vaste monde. Et je ne me souviens plus de votre dernière question.
C'était à quel moment est-ce que une grande partie des adultes, voilà, quand on grandit, on entre dans l'âge de maturité, on a le sentiment de perdre une partie des rêves d'enfant. En tout cas, cet émerveillement-là, on le voit bien. Est-ce que d'ailleurs vous avez le sentiment que ces livres jeunesse ou qui sont lus peut-être par les parents ou familialement ont aussi cette vertu de renouer avec l'émerveillement de l'enfance et du vivant, Emmanuel Grunemann?
Tout à fait. Mais je pense qu'on peut ne jamais perdre cet émerveillement. Enfin, moi,
oui,
j'ai
oui,
pas
tout le monde ne le perd pas, mais on a le sentiment qu'une partie quand même.
Mais effectivement, voilà, je pense qu'il y a un âge où on commence à perdre ce lien, à se déconnecter. Et je dirais que c'est un peu au moment du collège où le lien se distend de plus en plus. Mais parfois, il suffit de pas grand-chose pour y revenir. Et là, l'entourage familial ou un professeur ou des lectures aussi ou divers types de rencontres peuvent faire en sorte que la reconnexion se fait très très vite et peut après perdurer dans le temps. J'avais eu justement cette discussion assez passionnante avec Pierre Desaumes qu'on a entendu tout à l'heure de la Hulotte, justement qui avait cette même approche en disant que ça se détend à un moment, mais il suffit de pas grand chose pour que la reconnexion se fasse et qu'on garde cet émerveillement tout au long de sa vie.
Oui, puisque la Hulotte dégustée par tout le monde, hein, enfants, mais et grands et petits, voilà, tous réunis. Nicolas Gilsoul, vous vouliez réagir?
Oui, non, mais je pense que Paul Watson n'a pas perdu son âme d'enfant. Voilà.
Et une pensée pour lui, d'ailleurs.
Et d'autres aussi, donc je suis très très content qu'il soit revenu. Non, c'est très important cette histoire, parce que en fait, quand on lit des livres pour enfants, les enfants peuvent les lire eux-mêmes, mais bien souvent, ce sont les parents qui leur lisent. Et donc, les parents, en même temps, rentrent dans le conte et dans l'émerveillement. Et j'avais été très étonné, moi, que mes livres, qui étaient plutôt pour adultes, j'avais reçu des lettres d'une grand-mère qui disait « Je suis ravie parce que je le lis à mes petits-enfants tous les soirs, chaque histoire. » Et j'étais très surpris. Et donc ce sont des alibis. Donc ça, c'est vachement bien, parce que un livre ou un conte sert aussi bien aux petits comme aux grands qui les lisent, etc. Ouais, c'est merveilleux.
Laurent Azuelos.
J'ai pas perdu mes rêves d'enfant, je crois qu'ils sont toujours là présents, c'est ce qui me permet d'avancer. J'aime bien le proverbe qui dit « lance ton cœur loin devant et suis-le ». Ça me fait penser au courage, parce que le courage c'est la voix du cœur, et c'est aussi justement être courageux, d'être à l'écoute de ses rêves, de les réaliser. Et mon vœu pour l'année qui vient, c'est d'être peut-être comme les arbres, d'être droit, de grimper vers la lumière, et d'être reliés les uns aux autres pour s'entraider.
Dernière question, parce que je ne l'ai pas posée, en même temps on l'a en tête. Est-ce qu'il y a un livre dans votre enfance ou une collection qui vous a marqué plus que d'autres? Qui veut commencer? Laurent Azuelos.
Copain des bois.
Emmanuel Grunemann, de votre côté.
La petite maison dans la prairie.
Nicolas Gilsoul.
Alors moi je pense que c'est le Marsupilami. Et Gaston. Gaston qui était copain avec tout un tas de bestioles géniales que Franquin arrivait à croquer. Et voilà.
Que de belles références. Merci à tous les trois. Merci à Nicolas Gilsoul. Je rappelle le titre du dernier né, hein, Le Renard du Père Lachaise, un conte écologique édité chez Robert Laffont Jeunesse. Laurent Azuelos, Arbre Histoire, une promenade contée au cœur de la forêt, parue aux éditions Didier Jeunesse. Et on peut mentionner L'Or Bleu, conte musical auto-édité. Emmanuel Grunemann, bien sûr, la collection complète de SOS Animaux, parue chez Bayard. On peut mentionner, on n'en a pas eu le temps, mais Le Lac Baïkal, ou encore Dessine-moi un désert aux éditions du Ricochet, SOS Animaux en danger chez Fleurus, Quand la grenouille va dormir chez la Migale, édité par la Cabane Bleue. Et la Cabane Bleue, on peut tirer notre chapeau, c'est un éditeur engagé et labellisé pour la planète. Et puis voilà, chez Actes Sud, S'éveiller à la nature avec un enfant. Toutes les références, bien sûr, sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Et d'autres podcasts en lien avec le sujet vous y attendent. Et puis le vœu qu'on peut mettre, eh bien, c'est de continuer à s'émerveiller.